plus de 2 millions de tonnes de maïs, plus de 2 millions de tonnes de sorgho et 900 tonnes d'ananas, une spéculation qu'on vient de commencer, qui est, qu'on nous a dit impossible de produire. On a produit près de 15 000 tonnes de café, on a produit près de 900 000 tonnes de blé. Donc, c'est vous dire qu'avec ça, quand on regarde la proportion réelle de production, la couverture des besoins, c'est à 126,4%. C'est-à-dire que le Burkina a récolté assez de céréales qui lui permet de se nourrir l'année et l'année suivante. C'est-à-dire qu'il peut se nourrir pour attendre encore 2 ans. C'est-à-dire que même la production de l'année prochaine, même si on ne produit rien l'année prochaine, le Burkina peut se prendre en charge en point de vue, en besoin alimentaire. C'est que nous avons combattu les ennemis internes, nous avons réussi à abattre les ennemis internes, mais il y a l'ennemi externe, le plus gros ennemi externe des révolutions que nous connaissons tous, qui est les États-Unis d'Amérique, qui n'a pas encore dit son mot. Donc du coup, l'hiver noir désire l'assaut final des impérialistes sur notre révolution, sur notre union. Puisque pendant des décennies, on a tenté de diviser l'Afrique, on a tenté de cloisonner l'Afrique, mais l'AES est devenue, pour toute l'Afrique, un laboratoire d'unité, un laboratoire d'émancipation.
Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices de la Radio Bakami. Vous êtes en compagnie de M. Kaïs Sebelebe. Nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2026. Comme la vie va très vite, il y a à peine un mois, on est en train tous de se dire si nous arrivions. Dieu a fait que la grâce étant là pour nous. Nous sommes là tous, là, fidèles au poste. La Radio Bakami va émettre, va continuer à émettre. Mais elle est en, son réseau. Nous avons aujourd'hui un invité de marque, non pas un invité, mais un frère qui va nous rejoindre. Nous espérons qu'il sera là. Il sera présent régulièrement. En tout cas, il est parmi nous aujourd'hui. Il nous ouvre, la voie vers l'AES, vers le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un nouveau membre qui s'appelle M. Wanya Zerbo. Monsieur, si je prononce bien le nom, vous me dites. En tout cas, Wanya Zerbo du Burkina Faso. C'est la joie pour nous tous. Je vous dis bonsoir. Nous tous nous disons bienvenue. Monsieur Wanya Zerbo, comment allez-vous?
Bonsoir à tous, merci aux auditeurs, merci à vous pour l'invitation, je me porte très bien. Je m'appelle Wanya Zerbo, je suis journaliste, écrivain, je suis l'auteur de livres, un essai politique qui s'appelle le CARFA, le manuel de l'émancipation, qui aborde un peu les goupilles, les tas coloniaux qui ont été utilisés pour maintenir l'Afrique en ce développement. Donc, heureux d'être avec vous.
D'accord. Mais en dehors de ça, je sais que je vais revenir tout à l'heure. On va faire le tour de table, comme on dit, de manière virtuelle. Et je reviendrai vers vous parce que vous avez une particularité. Vous avez étudié, si ce que j'ai vu sur vous, votre CV est bon, vous avez étudié au lycée Marien Wabi du Burkina Faso.
Exact. C'est un homme historique. Je pense qu'il est de votre pays.
Oui,
et le Burkina l'avait vraiment, le Burkina l'avait vraiment comme une étoile, et le lycée qui porte son nom, c'était d'abord une école militaire qui a été ensuite rétrocédée au civil, et son esprit y est. Donc j'ai étudié au lycée Marien Wabi, et nous avons pris le temps d'avoir vraiment, on nous a inculqué, on nous a donné un épisode de la vie de ce grand monsieur, et je pourrais peut-être vous en parler.
D'accord, la coïncidence existe.
J'étais au lycée Marien Wabi.
Voilà, la coïncidence existe, mais Dieu aussi existe. On le prie sous toutes les formes que l'on peut sur Terre. En tout cas, lycée Marien Wabi fait qu'aujourd'hui, nous serons aujourd'hui, nous, intéressés par ce qui se passe au Burkina, avec avant monsieur Thomas Sankara, héroïque, aujourd'hui, avec Ibrahim Traoré, une autre forme de révolution. Le Burkina est une, pour l'Afrique, est un miroir, c'est une école qu'on va étudier au travers de ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui ou au fur et à mesure qu'on sera avec vous, vous serez avec nous et nous avec vous. Alors, à votre côté, nous aurons Madame Opou. Elle, on l'appelle la reine des Bateke ou la reine des Congolais. Madame Opou, elle aussi est une experte. Je vous préviens, Monsieur Zerbo, elle ne laisse pas la parole aux hommes, elle occupe l'espace. Donc, je vous préviens. Madame Opou, bonsoir, comment allez-vous pour cette première émission
Bonsoir en tout cas, on est là que l'année 2025-2026 soit meilleure que 2025. En tout cas, pour notre radio Bakambi, on va continuer à avancer. Bonsoir à tous, bonsoir aux 3G, heureuse encore d'être ensemble.
D'accord, bienvenue.
Et bonsoir à Zerbo, je n'ai pas oublié, bienvenue à Zerbo.
Voilà. Monsieur Wania Zerbo. Monsieur Gaïno, bonsoir, vous êtes le politologue du groupe, vous êtes celui qui aussi distribue la parole, la contredit, attaque et lance des piques, et tout le monde sait que vous le faites pour que l'émission soit bien comprise et que les autres aussi expriment bien leurs pensées. Comment allez-vous, monsieur Gaïno, pour cette première émission de 2026?
Merci, je vais très bien, monsieur Caïus. Bonsoir à tous les co-débatteurs, bonsoir aux auditeurs de la radio Bakambi. Et pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés, je vous souhaite une excellente année, année de réussite, année de décision, année aussi de bonne santé. Et voilà, tout pour vous. Que du bien.
Merci beaucoup. À vos côtés, nous aurons aussi les deux qui ont pris l'avion pour un très vite et pour l'autre de manière assez normale, on va dire. Mais le débat se fera plus tard. Nous avons aussi là M. Sosten Miambalat. M. Miambalat, vous rentrez du soleil de Brazzaville. Vous avez participé au congrès de l'UPADS. Mais avant, comment allez-vous, avant qu'on en parle?
Merci bien, M. Caïus Ebelebe, notre célébrissime animateur de la radio Bakambi. Je vais bien. Effectivement, j'étais au congrès de l'UPADES qui s'est tenu du 20 au 22 et je suis revenu. Le congrès s'est très, très, très bien passé et j'en suis fier. Merci et un plaisir d'avoir notre nouveau frère, M. Zerbo. Il est le bienvenu et puis bonne année à tous et surtout beaucoup de santé. Le reste s'en suivra.
Merci beaucoup. Et pour terminer, nous avons M. Patrick Dion qui, lui, est un économiste, professeur en France, mais aussi membre du PCT, membre du comité central qui a été réélu, on va dire. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes vraiment, comme on dit, un des barons du comité central du PCT. M. Dion, bonsoir. Comment allez-vous pour cette année 2026 qui commence?
Bonsoir, M. Caïus et Bélévé. Bonsoir, hein. surtout la bienvenue hein, à M. Zerbo, hein, du Burkina Faso que j'aime bien. Bonsoir à tous nos co-débatteurs, hein, M. Gaïno, même la reine, la seule et l'unique que nous avons, Sosten Miambala et tous nos auditeurs et auditrices. Bonsoir à tous. En tout cas, je vais très bien, grâce à Dieu, bien sûr. Nous avons, comme tu as su le dire dans ton propos introductif, je reviens du Congo-Brazzaville où j'ai participé du 27 au 1er janvier 2026 au 6e congrès ordinaire du Parti Congolais du Travail qui a su installer, élire, bien sûr, le président Denis Sassou Nguesso comme notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2026. Voilà. Bonsoir à tous et merci à nos auditeurs et auditrices.
D'accord. On fera le débat sur ce choix qui 40 ans plus tard, fait penser que bon, on peut aussi trouver d'autres et que l'Afrique a besoin de renouveau, un peu comme au Burkina Faso. Mais on en parlera. Vous nous expliquez, vous justifierez votre choix, comme M. Miambalat aussi justifiera son choix. Nous n'avons pas aujourd'hui Mme Miaka pour l'instant, en espérant qu'elle va très bien, qu'elle va nous rejoindre dès qu'elle peut, parce qu'elle est très prise, très occupée. Mais en tout cas, on lui souhaite de nous rejoindre aujourd'hui si elle peut. Sinon, elle nous rejoindra plus tard, ça c'est sûr. Monsieur, aujourd'hui, nous allons commencer aujourd'hui. Vous avez suivi, la CAN est en train de se dérouler. Moi, avant d'aller plus loin, je voulais juste faire un clin d'œil. Avez-vous tous vu ce monsieur qui incarne Lumumba à la CAN, ce Congolais de la RDC qui fait l'exploit de pouvoir rester debout pendant 90 minutes et qui aujourd'hui, tout le monde en parle. Son nom réel, c'est Michel Kouka et on l'appelle alias Lumumba, qui est une réincarnation. Est-ce que vous avez vu ce monsieur? C'est un clin sur l'Afrique. Est-ce que pour vous, ça signifie quelque chose? Monsieur Zerbo, vous qui suivez un peu l'actualité africaine, tout le reste, vous qui êtes le nouveau, est-ce que vous avez vu ce monsieur se mettre la main debout et être debout pendant 90 minutes pour supporter son pays, qui est le Congo démocratique?
Oui, je vous demande un instant.
Monsieur Zerbo, il est occupé. Oui. Il est occupé ailleurs. Monsieur...
Non, je ne sais pas. Bonjour. Et donc, je disais, prière reprend la question pour moi. En fait, je suis en ce moment dans un événement
où je suis un peu dans les VIP, donc du coup, c'est difficile de... Alors, je vous écoute.
Oui, nous, on posait la question pour, avant de commencer sur le débat. On parlait de ce monsieur qui incarne Lumumba à la CAN et qui supporte la RDC, qui est un Congolais de la RDC, qui lui lève sa main pendant 90 minutes, mais qui surtout voulait rappeler à l'Afrique entière qu'il y a eu quelqu'un qui a été tué, un grand homme, qui était Lumumba.
Oui, et j'ai vu ce monsieur, c'est une performance qui, pour moi, a un double sens. Le premier sens, c'est déjà l'éveil de l'Afrique, c'est-à-dire il maintient à travers sa performance une prise de conscience que nous avons. Et dites-moi, à quel CAN on a valorisé une personnalité qui est luttée pour l'indépendance? Pour moi, c'est la première fois que je vois. Donc le deuxième élément, c'est d'annoncer l'ère du réveil de l'Afrique. Pour moi, quand je vois ça lors d'une CAN, et d'une CAN dans une Afrique, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, une Afrique blanche, je me dis, c'est vraiment le moment qui détermine que cette performance, c'est un déclic. C'est réellement un vrai déclic. Moi, je le vois sur les deux angles et je pense que ça, pour moi, il a été, on va dire quoi, l'attraction historique de la CAN, pour moi. Et ça se voit, tous les médias ont tout fait pour l'avoir, tous les médias, mais après, tu vois, les Occidentaux vont faire passer ça dans le folklore, mais nous, Africains, ne devrions pas voir ça comme du folklore, comme d'une performance artistique ou quelqu'un qui amuse la galerie, mais plutôt comme un signe ou comme un message. Quand on voit l'AES qui naît, qui est en train de prendre son envol, et qu'on voit que lors de l'événement historique, bon, l'événement grandiose footballistique africaine, quand on connaît la place du football dans la société, et qu'on voit qu'il a valorisé Lumumba dans cet événement-là, pour nous, c'est un signe. Voilà ce que je pouvais dire.
Merci beaucoup. Monsieur Miamalat, symbole folklore pour certains, mais un vrai symbole fort. Hein. Il rappelle que Lumumba a incarné cette Afrique qui devait changer. Cette Afrique qui voulait son indépendance. Hein. Et il rappelle qu'aujourd'hui, le Maroc peut aussi servir d'unité de l'Afrique et de fer de lance. On a vu qu'aujourd'hui, l'Afrique du Nord a compris, ou peut-être semble comprendre, qu'il ne faut pas rejeter les autres aussi.
Oui, au-delà de ce que M. Zerbo vient de dire, moi, je vois tout d'abord sa performance sportive. Parce que c'est aussi de l'art. Et qu'il a fait, c'est un travail. Rester plus de 90 minutes, tout au moins 90 minutes, sans bouger, garder la même position, c'est aussi un exploit sportif. Et au-delà de ça, ça nous montre que on ne doit pas tout le temps parler. Même le silence, c'est une expression. Donc, il a utilisé le stoïcisme. C'est une façon d'exprimer le message, ce qui fait qu'il devient assez populaire. Il est connu mondialement sans dire un mot. Rien qu'en étant figé, il a envoyé un message fort à l'Afrique. Il doit donc peut-être se lever, essayer de ne plus rester silencieux, de parler et revendiquer ses droits sur... l'univers, sur le monde, parce que nous devrons aussi combattre. Donc, le moment est arrivé. En plus, chapeau à lui, et puis Lumumba, c'est un symbole de l'Afrique, du combat africain, du panafricanisme. Au même titre, les Amical Cabral, les Barthélémy Boganda.
D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ndian, symbole africain, réveil de conscience, ou bien rappel de l'importance que l'Afrique joue ou devrait jouer, aurait pu jouer depuis longtemps. On a perdu pas seulement Lumumba, on a perdu des grands. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart des pays qui participent à la CAN ont une histoire un peu commune, c'est d'avoir pratiquement tous eu un leader qui a voulu que l'Afrique s'unisse pour devenir plus fort.
C'est un vrai symbole, un vrai rappel historique. Hein. C'est-à-dire pour nos enfants et les jeunes auditeurs de Radio Bakambi qui ne connaissaient pas le grand personnage politique qu'est Patrice Lumumba, qui ne l'ont pas lu dans les livres d'histoire, qui ne l'ont pas étudié sur le banc de l'école ou sur le banc de l'université, bien actuellement, maintenant, ils le savent. Que Patrice Lumumba fut un grand leader politique des années 60 qui a demandé, a obtenu l'indépendance de la République démocratique du Congo vis-à-vis du colon belge de l'époque. Mais c'est également un message de performance. Une performance d'abord sportive, rester debout pendant 90 minutes, une performance artistique, mais également un message qui veut dire ceci. Le silence est aussi un message. Le silence est aussi un message par lui-même. Enfin, je me permets de rappeler quand même que non seulement il a rappelé le nom de Patrice Lumumba, qui est un personnage politique de haut niveau des années 60, à côté de Kwame Nkrumah, à côté de Simon Kimbangu, qui ont lutté pour l'indépendance de l'Afrique, eh bien, le message qu'il a porté a permis à ce que, je me permets de vous le dire, qu'il soit même reçu par le président Félix Tshisekedi, qu'il a reçu avec face, avec promptitude. Donc, moi je dis que c'est un geste qui est bien, qui le met en lumière, c'est vrai, mais qui permet aussi aux autres pays africains de savoir que garder le fleuve, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. Participer, c'est mieux. Merci.
Merci beaucoup. Madame Opou, la reine, qu'est-ce qu'on peut dire de ce monsieur qui, pendant 90 minutes, pour les chrétiens, c'est un peu comme Moïse qui a fait traverser le Jourdain pour aller vers la terre promise. Est-ce qu'il incarne aussi cet espoir de dire que l'Afrique peut, même dans le silence, comme on dit, agir comme les grandes puissances, mais l'Afrique est une puissance qui s'ignore? Est-ce que c'est ça aussi le message?
Sûrement. Mais je pense que il n'est pas venu là pour faire la comédie. Si c'était la comédie, il aurait choisi autre chose. Ce qu'il a fait, c'est pleinement réfléchi. Et c'est quelqu'un qui sûrement s'est entraîné pour arriver à faire ce qu'il a fait. Pour s'entraîner, il fallait qu'il soit inspiré. Et donc, c'est le symbole, c'est notre héros Lumumba qui l'a inspiré. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on regarde comment est-ce que le monde extérieur, surtout l'Occident, voit l'Afrique, quand on voit, par exemple, ce qui se passe autour de notre jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui est en train de se battre pour essayer de ramener l'Afrique à sa juste valeur, on a envie de se dire, il faut que nous regardions notre histoire, il faut que nous revisitions notre histoire. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas leur histoire. Il faut revisiter l'histoire, je rappelle ça tout le temps. Nous avons des personnes, des héros comme Lumumba, comme tant d'autres, qui ont perdu leur vie pour défendre l'indépendance de l'Afrique. Qui en parle? Donc il faut que, comme ça, à des moments comme ça, qu'il y ait quelqu'un qui soit inspiré pour rappeler au monde entier, voici ce qu'est l'Afrique. Et voici ce que veut l'Afrique. Et pour le combat de l'Afrique, voici ceux qui ont été, qui ont apporté la lumière à cette Afrique-là et qu'il ne faut pas ignorer. Je pense que même ceux qui étaient là-bas sur place, pas que les Africains, ont dû, après cela, aller lire et comprendre ce qui était, ce qu'ils voulaient montrer aux yeux de tous. Et là, il a réussi. Et c'est très bien.
Vous savez, madame Mopou, quand vous dites ça, il y a une jeune dame qui, sur TikTok, a fait une Algérienne en plus. Hein. C'était pas... Il y a eu deux, il y a un Algérien qui a dit que je rends hommage à ce monsieur, qui nous a montré que le football, c'est aussi autre chose. C'est aussi une forme de... incarner une forme de résistance, c'est ce qu'il a dit. Et puis, il y a une dame qui a expliqué que... Je ne sais pas si vous savez que le match Algérie-Congo démocratique symbolisait plus que ce que vous avez vu. Et elle disait ceci. Savez-vous que quand on a tué Lumumba, l'Algérie a voulu faire un geste fort pour pouvoir dénoncer ce crime? Eh bien, le président Tshombe, qui, avec son avion, survolait l'Algérie, elle dit qu'il a, l'Algérie a demandé qu'il soit arrêté, que son avion descende et qu'il soit mis aux arrêts, parce qu'il n'avait pas accepté l'assassinat de Tshombe, plutôt de Lumumba. Donc, elle montrait que la fraternité... que nous ne connaissons pas, comme vous dites, l'histoire. Elle a dit qu'il faut faire des recherches pour voir que les combats entre les pays ont souvent créé des liens que même nous-mêmes nous sous-estimons, et que cet artiste-là a rappelé, ou bien ce monsieur Michel Kouka a rappelé beaucoup de choses qui dépassent même nous-mêmes qui l'imaginions. Mais en tout cas, cette question, c'est qu'il parle d'Afrique. Monsieur Gaïno, vous qui êtes politologue, symbole profond, ce geste, une force, parce qu'en dehors du terrain, il est l'une des seules personnalités qui a vraiment attiré, au-delà de la critique qu'on parle maintenant du football, on dit qu'on veut que la CAN se fasse tous les 4 ans, on oublie tous les bénéfices que cela crée. Mais ce monsieur est le deuxième grand événement. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a un joueur algérien qui avait critiqué ça et qui s'est excusé parce qu'il ignorait ce qui était le Mumba. Il s'est même excusé. Donc, c'est-à-dire que c'est un symbole fort, comme l'ont dit mes prédécesseurs. C'est franchement non seulement une performance, mais c'est surtout l'idée qu'il a eue de montrer ce visage-là aux gens qui ne connaissent pas aujourd'hui. Voilà qu'on parle encore de Lumumba. Et souvent, nous, comme nous n'apprenons pas notre propre histoire, voilà que nous ignorons notre histoire. Et je crois que de tels symboles, ça révèle quand même quelque chose dans notre esprit, dans notre prise de conscience, que nous devons connaître ceux qui ont été nos héros, ceux qui ont lutté pour notre indépendance, ceux qui ont lutté pour notre liberté. Pour notre liberté, nous ne devons pas les ignorer. Et c'est ça, apprendre l'histoire. Connaître son histoire, c'est se connaître soi-même. C'est savoir aussi d'où l'on vient, où l'on va. Voilà, je crois que c'est très important, ce symbole-là. Et je pense que ça a dû marquer pas mal de monde et l'idée fera son chemin. Voilà, merci.
D'accord, alors on va rentrer dans le débat. Mais avant de rentrer dans le débat, j'aurais une question à poser à M. Miambalat. M. Miambalat, il y a eu sur une chaîne un débat qui a tourné très vite en fait, autour de l'UPADS et de son rôle. Moi, j'aurais voulu avoir votre avis en quelques minutes parce que je sais qu'on va mettre ce débat-là plus tard de votre présence au Congrès, de votre Congrès ainsi que celui du PCT. Vous avez été un peu piqué, vous avez voulu, vous aussi, vous pouvez aussi nous éclaircir sur ce qui a été dit par M. Boukadia. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, merci bien, monsieur l'animateur de la radio Bakambi. C'est tout simplement une mise au point pour tordre le cou à ceux qui diffament certaines personnalités. Vous savez, le Congo a connu plusieurs soubresauts, plusieurs guerres, et la guerre de 97 était le summum. Mais si les gens qui se disent politiciens, qui sont aussi des idées, continuent à invectiver les uns sur la guerre de 97, je crois que ce n'est pas une bonne chose pour amener la paix au Congo. Et je prendrai le cas de monsieur, c'est un grand frère que je connais bien, monsieur Boukadia. Moi, j'ai été présent, j'ai milité pour sa libération quand il était enfermé à Pointe-Noire. Quand il était arrêté, nous avons battu le pavé parisien avec sa femme. J'ai connu madame Boukadia, enfin, pour qu'il puisse sortir de prison. Mais curieusement, ce grand frère, au lieu d'essayer d'unir les jeunes, les réunir, rassembler, il a tendance subtilement à diviser la diaspora, sinon les Congolais, dans ses propos. Au départ, il voulait un État du Sud, un État Congo, Congo du Sud, donc un peu dans la division. Au-delà de ça, il est passé, il cherche une conférence internationale sur le Congo. Là, il a changé un peu de fusil d'épaule. Mais curieusement, dans ses propos, il s'attaque très souvent au président élu de l'UPADES. J'ai cité le camarade Pascal Tsatima Biala, que nous appelons affectueusement Yatsati. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dira que c'est Tsatima Biala qui est à l'origine de la chute de l'Issouba, parce que Tsatima Biala, en tant que ministre de la Défense, a trahi Pascal Issouba. Ce qu'il oublie de dire, c'est que lui, il a été parmi les Argentiers qui ont fait tomber le régime de Issouba. Donc, il n'est pas sur le dos de Tsatima Diallo dans le cadre de diviser, dans l'idée de diviser les militants de l'UPADES qui soutiennent Tsatima Diallo, les jeunes qui ne connaissent pas réellement l'histoire. Mais ce monsieur doit même réviser son histoire et faire très attention. Pourquoi il ne porte pas plainte à M. Tsatima Diallo? Parce qu'il insiste, c'est nous qui allons porter plainte à ce monsieur par rapport à ses propos, montrer que c'est Tsatima Diallo, en tant que ministre de la Défense, qui a trahi l'Issouba. Alors que Tsatima Diallo est arrivé au ministère de la Défense pratiquement à la fin. La chute de l'Issouba était préparée dès le départ. Ça, ce n'est qu'un un maillon de la chaîne. C'est eux qui ont fait chuter l'Issouba, parce que Tsatima Diallo, en tant qu'individu, n'a pas trahi l'Issouba. Il a été son ministre de la Défense jusqu'à la fin. La preuve, il est parti aussi en exil avec l'Issouba. Donc, M. Boukadia devrait faire très attention. Vu son âge, avec tout le respect que je dois à ce monsieur, il doit essayer de unir les Congolais au nom de les diviser par ses propos, sa façon de faire la politique, puisque c'est même lui qui parle de la milice paramilitaire qu'il appelait FDU. Ça sort de M. Boukadi. C'est lui qui parle des FDU et des FDP, je pense, qui sont des milices, des paramilitaires qui ont pris le pouvoir à Brazzaville.
D'accord. Je comprends bien, vous avez beaucoup à lui reprocher, ça on a compris. Ce que vous aimeriez, c'est qu'il puisse rectifier. Est-ce que vous seriez prêt, si je l'invite, moi, à un débat, à venir sur le plateau de la radio Bakambi, si on arrive à trouver ses coordonnées, à faire un débat avec vous, vous serez prêt à venir débattre avec lui?
Effectivement. Je l'invite à venir débattre sur ce sujet, ou par la chaîne concurrente, je ne sais pas si je peux la citer.
Allez-y, sur laquelle il a parlé, vous pouvez, oui.
Monsieur, ce monsieur a parlé sur la chaîne de monsieur Christian Perrin. C'est une interview sur Christian Perrin, dont moi je conteste énergiquement. Et si monsieur Christian Perrin veut nous confronter, veut nous inviter tous, je serai présent pour apporter une voix contradictoire et interpeller monsieur Boukadia qu'il mette de l'eau dans son vin. Qu'il arrête avec des inepties, des invectives contre les Congolais qui travaillent, qui militent pour le Congo. D'accord. Est-ce qu'il se souvient?
Non, d'accord, monsieur Niambala, on a compris que vous avez beaucoup à dire. Si vous pouvez conclure, vous avez lancé un appel de débat. Monsieur Boukadia va vous écouter, on l'espère, en tout cas on transmettra. Vous voulez le débat, vous voulez une réponse, vous voulez une contradiction. Ça peut être sous Bakambi ou ça peut être chez Perrin, là où il a fait. Monsieur Perrin vous écoutera aussi et il vous contredira. C'est ce que vous voulez dire en gros, hein?
En gros, c'est ça. Et puis, il continue à réclamer son coq de le président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est d'une façon ésotérique qu'il le fait. Merci.
J'en ai fini. Merci.
J'aimerais quand même compléter monsieur Sassou Nguesso à ce propos en une minute, Caius.
Allez-y.
Alors, il faut que nos auditeurs, nos auditrices se rendent compte, sachent que monsieur Boukadia n'est pas... C'est un séparatiste. Il ne tient jamais des propos fédérateurs. Il ne tient jamais des propos qui unissent, qui unissent. Il ne tient jamais... C'est un spécialiste de diviser pour régner, quoi. Voilà. Mais comment un petit pays comme le Congo, avec 342 000 km², il veut diviser le Congo en deux? Son projet de société pour l'élection présidentielle, c'est 171 km² pour le Nord, 111 km² pour le Sud, une République du Nord, une République du Congo du Sud. Quand quelqu'un commence des propos comme ça, qui ne sont pas fédérateurs, qui unissent pas, qui ne recherchent pas la paix, qui est dans la division, et non seulement la division au niveau de la diaspora, diviser les Congolais au niveau de la diaspora, mais diviser les Congolais aussi au Congo, c'est pas sérieux. Donc je suis d'accord avec M. Sosène Mbala, qui est en train de lui faire ce reproche-là, qui demande même un droit de réponse, ou sur Radio Bakambi, moi j'y ferais bien partie de ce débat, ou sur Christian Perrin, là-bas, là où il a dit ses inepties. Je dis bien, ce sont des inepties. C'est pas sérieux, il n'est pas gentil. Nous n'avons pas, au Congo, là aujourd'hui, en 2026, M. Caïus et Bélébé, nous n'avons pas besoin de la division. Nous avons besoin de l'unité nationale. Nous avons besoin de la fraternité, de la paix, de la stabilité. Ce qu'a dit M. Nambala est très, très, très important. Nous revenons quand même, nous avons une histoire douloureuse. Le quinquennat, 1997, c'est une année catastrophique, c'est une année douloureuse, avec des plaies. On ne veut pas mettre le couteau dans la plaie quand même, pour remuer tout ça. Non, c'est derrière nous, nous recherchons la paix, nous recherchons l'unité nationale, nous allons à un grand rendez-vous du donner et du recevoir, qui est l'élection présidentielle de 2026, mars 2026, s'il vous plaît, qu'il cesse avec ses inepties, qu'il cesse avec... Il ne faut pas qu'il trompe l'histoire. Les gens connaissent l'histoire, et dans l'UPADES, Sassou Nambala est mieux placé pour nous de, pour rectifier le tir et pour le mettre sur le droit chemin. Merci.
D'accord. Alors, on va écouter. On espère que monsieur Boukadia et que Christian Perrin, que je connais, que je salue, lui aussi, il saura répondre. En tout cas, c'est un professionnel, donc il n'hésitera pas à faire la, à prendre la, la bonne décision. On rentre dans le débat, on va parler de monsieur Trump et de ce que chacun de nous peut voir, peut observer. On va pas... on va développer, mais on va essayer d'aller plus vite sur ce que nous aurions pu faire. On va dire, monsieur, on va commencer par monsieur Zerbo. Monsieur Zerbo, moi, j'aimerais d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, on sait qu'on va parler aussi des conséquences sur l'Afrique, mais j'aimerais déjà que vous nous disiez comment va le Burkina. On a dit qu'il y avait un coup d'État, mais on sait que le coup d'État a été manqué. On a vu on a entendu des audios qui ont circulé sur le net. Il y a eu donc un ancien président qui est exilé dans un pays qui prétend rentrer dans l'AES. En tout cas, en ce qui nous concerne, on se méfie toujours du Togo. On se dit que c'est quand même un hameçon. Bref, il y a eu un coup d'État raté. Comment va le capitaine Ibrahim Traoré ? Vous savez que tout le monde lui veut du bien. Beaucoup aussi lui veulent du mal. Il incarne un nouveau style de leadership qui fait rêver beaucoup de gens, mais qui aussi fait peur à beaucoup de gens. Ceux qui sont, comme on dit, des conservateurs. Comment vous allez et comment va le Burkina après le coup d'État manqué? Dites-nous un peu ce que vous savez. Beaucoup de choses à la fois.
Alors, j'ai bien résumé ce que vous demandez. Oui, pour dire, je vais prendre point par point. Primo, comment on va? On a le moral au top. On a le moral au top parce que bien avant que ce coup d'État arrive, je vous rappelle que c'est une série de coups manqués, coups d'État manqués. Et à chaque fois qu'ils ont tenté, Dieu merci, nos services de renseignement ont réussi à déjouer les coups d'État. Donc nous sommes quasiment à la 9e. Et si je vais sur la chronologie de tout ce qui a été présenté à la RTB et ce que nous avions eu comme information, nous sommes à la 9e tentative. Donc du coup,
9e.
Pour nous, c'est 9e. Et du coup, c'est pas on est bon en DNA, on ne sera pas habitué au mauvais, mais là on est légèrement habitué et le président en est pleinement conscience. Et je pense que lors de sa sortie, il a dit une fois, en réalité, ça ne va jamais finir parce que c'est une lutte de longue haleine. Donc du coup, il faut qu'on s'habitue à ces coups-là parce qu'ils ne vont jamais cesser. Mais il nous a un peu effleuré ce que Cuba a vécu, près de 967. Tentative d'assassinat sur sa personne en vain. Donc du coup, on est aussi préparé. Oui, on va bien. Alors deuxièmement, qui est le coupable? Le coupable est connu. Depuis les trois derniers coups d'État ont impliqué le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ex-président débarqué justement par l'actuel président du Burkina. Et il est réfugié au Togo et ça fait la troisième fois que son nom est nommément cité lors d'un coup d'État déjoué. Et le plus spectaculaire a été qu'il avait réussi à impliquer l'ex-chef des forces spéciales burkinabé, qui est allé voir des terroristes et avec l'aide du Niger, on a réussi à capturer un ex-responsable, un ex-commandant des forces spéciales burkinabé, l'image était effarante et ça dit improbable. Voir celui qui était censé conduire la lutte contre les terroristes assis entre des terroristes, un ami. Donc du coup, ça nous l'avons vécu et c'est bien, c'est l'avant-dernier coup d'État. Et aujourd'hui encore, ce coup d'État, son nom, le nom de Paul-Henri Sandaogo, réfugié à Lomé, a été cité nommément. Et aujourd'hui encore, nous sommes en train de vivre depuis le 3, nous sommes en train de vivre ce que nous on appelle sur notre chaîne nationale la série des aveux des apatrides. La série aveux des apatrides. Parce que l'État, le ministre de la Sécurité est passé à la télé, a parlé et a recommandé une série d'aveux qui vont passer à la télé et qui passent à la télé. Même aujourd'hui, nous devrions écouter le quatrième aveu qui nomme clairement que la personne était impliquée, qu'il y avait effectivement un vrai coup de pied qui était en cours et qui a été déjoué, et chacun donnait ce qu'il devait faire. Donc pour nous, oui, et pour Ari Sanogo Damiba est bel et bien impliqué. Alors, troisième point, oui, il incarne le leadership, il plaît à beaucoup et il a beaucoup de lobby, oui. Nous sommes en Guinée, notre président, il est pleinement conscient de sa position. Et je pense qu'à toutes ces sorties, il prépare les Burkinabés. Et il a été celui-là de l'AES qui a dit « Préparez-vous à la guerre de haute intensité ». Il a encore dit, d'une autre manière, en décembre à Bamako, il a dit « L'hiver noir arrive ».
Oui, l'hiver noir,
et
c'est quoi?
À chaque fois qu'il sort...
Mais c'est quoi l'hiver noir?
Alors, l'hiver noir, dans sa forme, dans sa nouvelle forme où il l'identifie, en fait, il avait déjà parlé de l'hiver noir sous d'autres formes. Il avait déjà fait cas de ce qu'il appelait préparez-vous à une guerre de haute intensité. En réalité, c'est juste la nouvelle forme, le nominatif, ou du moins la désignation ésotérique ou spirituelle de la guerre de haute intensité qui est l'hiver noir, en réalité. Et dans ce qu'il raconte, dans le chemin qu'il a aimé dans l'hiver noir, il dit, nous sommes des chasseurs de loups, nous avions pendant une bonne période chassé des loups, mais parmi nous, il y a ceux qui nous évitent de surprendre des loups. Et bientôt, si ceux-là, on n'arrive pas à les sortir, ils seront eux les vecteurs de l'hiver noir. Donc c'est pour dire que les ennemis tapis dans l'ombre, les ennemis internes. Et ce qui va arriver, c'est que nous avons combattu les ennemis internes, nous avons réussi à battre les ennemis internes, mais il y a l'ennemi externe, le plus gros ennemi externe des révolutions que nous connaissons tous, qui est les États-Unis d'Amérique, qui n'a pas encore dit son mot. Donc du coup, l'hiver noir désire, on va dire, l'assaut final des impérialistes sur notre révolution, sur notre union, puisque pendant des décennies, on a tenté de diviser l'Afrique, on a tenté de cloisonner l'Afrique, mais l'AES est devenue pour toute l'Afrique, un laboratoire d'unité, un laboratoire d'émancipation. Donc du coup, il est convaincu que si on y prend garde, les impérialistes vont déployer leur dernière carte, leur assaut final, et ce serait l'hiver noir. Voici à peu près.
Donc oui, on a les ennemis, on a les amis. C'est-à-dire qu'ils vont plus se cacher.
À un moment donné, puisque en racontant l'hiver noir, il a aussi dit que nous avions vaincu les loups de l'intérieur. C'est-à-dire que les ennemis, ceux par qui ils passaient pour nous combattre, ont été tous vaincus. Oui. Donc cela les oblige à venir par eux-mêmes.
D'accord.
Alors, à venir par eux-mêmes.
Oui. Donc ils vont se présenter.
Monsieur Gerbeau, excusez-moi.
Vas-y,
moi, j'aurais parlé de l'albinos noir et de l'hiver noir. Parce que dans l'albinos noir,
vous avez dit quoi, on n'a pas entendu. Vous avez dit quoi? Ce serait quoi pour vous?
Non, écoutez, non, je vous ai entendu. Il y a deux choses à ne pas confondre. L'albinos noir, c'est pour nous le signe de la victoire, le signe de la fin de la guerre. L'albinos noir, c'est nous, notre, on va dire quoi?
Emblème.
Notre arme suprême qui va complètement assécher l'ennemi et ramener la paix. L'albinos noir, c'est notre arme fatale. Donc du coup, dans cette situation, personne ne peut identifier notre arme fatale. Autrement dit, comme il aime dire, quand on sait où vous allez, on sait où mettre les pièges. Donc l'albinos noir reste un mystère. Ça, c'est notre arme fatale. Il a dit... Quand l'albinos noir sortira, la guerre va finir. Peut-être que l'albinos noir sortira, à la fin, c'est l'albinos noir qui mettra fin à l'hiver noir. Donc pour nous, l'albinos noir n'est pas encore là, c'est notre arme fatale. L'albinos noir, c'est le signe de la victoire de l'AES sur tous ses ennemis. Ses ennemis les plus coriaces. C'est pour ça qu'on peut parler de l'albinos noir, puisque lui, il reste toujours un mystère. Par contre, l'hiver noir, on en a déjà parlé, il a déjà parlé de l'hiver noir sous d'autres formes. L'hiver noir, c'est la guerre de haute intensité, qu'on sait qu'une fois que nous ayons réussi, si nous arrivons à battre les terroristes, les communs, si vous voulez, ils sont obligés soit de créer une rébellion interne. Ça, c'est impossible.
soit de susciter un voisin qui va essayer de nous attaquer. Ça aussi, c'est pas possible. Maintenant, ils sont obligés de venir par eux-mêmes. C'est ça le présage de l'hiver noir.
D'accord. Alors, entre-temps, vous avez aussi, on va être très franco, j'ai suivi le président Ibrahim Traoré, on le suit, je le suis le plus possible. Il dit que lui, tant que le dialogue est franc, et vous qui êtes journaliste, vous devrez aussi, vous, avoir un langage, quelque part, de révolutionnaire, de comprendre que les enjeux sont tels que le discours des médias mainstream, c'est de, comment dire, de dévaloriser, de déshumaniser, déshumaniser nous qui sommes les Noirs, les Africains. Il y a aussi ceux qui accusent l'AES d'inventer des coups d'État. Qu'est-ce que vous dites?
Bon, après, je vais juste imaginer. Hein. Alors, est-ce que quelqu'un dirait que quand il y a eu des échauffourées aux États-Unis, quand on a tué les gardes, quelqu'un dirait que c'est une invention quand on a tué Clark ou Click, en tout cas une Américaine qu'on a abattue. Oui, est-ce que quelqu'un dit que c'est des inventions? Non. Quand c'est eux, Ils disent jamais que c'est des inventions. Pourquoi? Parce qu'ils ont, pendant des décennies, modélé, je veux dire, conditionné l'esprit africain avec un narratif qui est que l'Afrique ne peut rien, il n'est qu'un objet à leur main. Donc tout ce qui semble contredire le narratif est à banaliser. Et c'est le lieu de rappeler les Africains que nous sommes encore aliénés. Mon livre le dit. Nous sommes encore sous de l'aliénation informatique et du narratif.
Rappelez-nous le titre de votre livre. C'est nous. Le titre de votre livre.
Mon livre s'appelle CARFA, le manuel de l'émancipation. Et à l'intérieur, je donne les divers types de complexes qui ont toujours maintenu l'Afrique dans son sphère et de dépendance. Donc du coup, quand ils vous disent que nous inventons des coups d'État, que nous inventons si nous inventons ça. Regardez très bien qui le dit. À la base, une parole n'a de crédibilité que par qui le dit, si on s'en tient à la logique, si on s'en tient à la raison. La parole n'a de valeur que par qui le dit. Généralement, on dit la parole du roi, personne ne le conteste. Parce qu'il est quand même à un poste assez connu, il a tout à sa disposition pour dire ce qui est vrai ou dire ce qui est faux. Donc du coup, quand un roi vous dit, ce qui se passe dans le pays, c'est un tel, parce qu'il a besoin que la population soit responsabilisée, je crois que tous ceux qui vont tenter de dire que c'est une invention, ils sont dans le narratif de banaliser afin de pouvoir nous exploiter, nous utiliser. Puisque tant qu'ils ne nous banalisent pas, ils vont pas pouvoir faire passer ce qu'ils veulent faire passer.
C'est-à-dire qu'il y a banalisé, parce que pour
eux, tant que le coup n'a pas réussi, pour eux, le coup va rester une invention. C'est le coup qui aura réussi qui sera pas une invention. Est-ce que le Bénin, tu as vu? Regarde bien pour le Bénin. Personne ne parle d'invention. Tout le monde parle d'une tentative et même tente d'impliquer l'AES. Mais au fond, tout le monde sait que c'est une invention en réalité. Donc du coup, il faut qu'on ait l'esprit de savoir que l'information a pu être une arme de l'école des Africains. Quand eux vous disent que c'est la même marché, parce que pour eux, si c'est réellement prouvé, ils auront, on va mettre à nu leur manigance, on va mettre à nu leur tout ce qu'ils ont fait dans l'ombre. Donc du coup, ils n'ont pas intérêt à ce que cela soit reconnu sérieusement.
Tout à fait. C'est-à-dire, M. Zerbo, M. Caïs, avec votre respect, allez-y. Ça s'appelle du formatage. Le formatage intellectuel de l'Occident. Ils nous ont formatés pour que nous puissions croire qu'à leur stéréotype, à leur formatage, à leur... C'est-à-dire que ce qu'ils disent, eux, c'est l'expression de la vérité. Ce que nous disons, nous, c'est l'expression de la fausseté. Eux, ils incarnent la vérité et nous, on incarne le mensonge. Ce qu'ils disent, c'est vrai. Ce que nous disons, c'est faux. Justement, on doit se départir de ce langage. On doit se départir de ce vocabulaire. On doit avoir nos propres mots. Parce que ce qui se passe au Burkina, c'est la vérité. C'est tout. C'est la vérité. Et ce qu'on a dit, c'est de la vérité. C'est pas ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont les médias, parce qu'ils ont des journaux, ils ont la télévision, ils peuvent se permettre de le dire. Alors que nous, on n'en a pas. Donc, c'est du formatage. Tant que l'Africain n'est pas déformaté, tant que l'Africain reste dans le formatage intellectuel occidental, et bien on ne s'en sortira pas. Ça doit faire partie certainement, je n'ai pas lu votre bouquin, dans les différents complexes de l'Africain, les différences complètes de l'homme noir vis-à-vis du blanc, vis-à-vis de l'occidental, vis-à-vis de l'européen. C'est ça.
Alors, je vous le complexe. Il y a le complexe d'infériorité, le complexe de médiocrité et le complexe de diabolisation. C'est-à-dire qu'ils ont réussi, avec le complexe d'infériorité, à justement nous faire croire qu'ils sont supérieurs à nous sur tous les plans. Complexe de médiocrité, ils ont réussi à nous faire croire que tout ce qui vient de chez nous n'est pas bon et que tout ce qui est bon doit venir de Jésus. Et le complexe de diabolisation, c'est celui de croire que nous sommes le condensé de tout ce qui est diabolique. Nous sommes généralement, ils ont réussi à faire croire aux noirs que son frère est mauvais, que c'est les noirs qui sont mauvais, que le noir ne peut pas dire ce qui est vrai, que le noir ne peut rien construire de bon, de bien. Donc du coup, voici les trois complexes qui sont dans mon livre. Et vous voyez, aujourd'hui, quand ils banalisent la vérité que nous nous disons, bah, ils veulent nourrir, ou du moins exploiter ces complexes-là. Quand on vous dit, quand ils viennent dire, par exemple, supposé coup d'État au Burkina, supposé coup d'État, malgré les preuves, malgré les évidences, malgré les réalités, ils vont quand même dire supposé coup d'État. Et quand on dit terroriste, ils vont dire, les supposés terroristes. Parce que pour eux, tant que ce ne sont pas les terroristes, quoi qu'on les voit armés, quoi qu'on les voit en train de se filmer et de semer la terreur, de semer le désordre, le chaos partout, bah, une fois qu'on les a arrêtés ou tués, bah, ils ne deviennent plus des terroristes, ils deviennent des civils. Donc, du coup, pour moi, c'est un complexe qu'ils exploitent et qu'ils vont toujours exploiter. C'est à nous de nous décoloniser les mentalités, de nous désaliéner. Dans mon livre, je parle de ça, l'aliénation. Nous sommes tous des aliénés. Vous savez, même nous, ici, aujourd'hui, qui avions appris à nous défaire, il y a encore des séquelles. Il y a encore des séquelles. Nous sommes parvenus peut-être à nous sortir du grand lot, mais il y a encore des séquelles. Jusqu'à présent, j'ai des amis, des révolutionnaires, qui ne se gênent pas pour encore exploiter RFI ou TVZN. Et j'ai encore des médias au Burkina, bah, qui diffusent des informations de AP, de Reuters, de BBC, de... Bon, vous voyez, tout ça sont les séquelles de l'aliénation. Donc, du coup, moi, voilà, pour moi, c'est ça.
Monsieur Zerbe, je me permets de rappeler à nos auditeurs, parce que ça, c'est une manière de diminuer le grand personnage qui est le président Ibrahim Traoré par rapport à la mission qui est la sienne, à la charge qui est la sienne, au modèle qu'il est en train d'incarner. Je me permets de rappeler quand même à nos auditeurs que Ibrahim Traoré, c'est pas n'importe qui, hein. Il est le symbole quand même de la continuité de Thomas Sankara. Il est le symbole quand même de la continuité des idées de 1960, de Kwame Nkrumah, aujourd'hui comment on l'appelle, du Libyen qui vient de mourir avec la complicité.
Muammar Kadhafi.
C'est-à-dire quand quelqu'un aspire à l'unité de toute l'Afrique, des 54 pays africains, 55 ans. Quand quelqu'un aspire aux États-Unis d'Amérique, d'Afrique, quand quelqu'un aspire à l'indépendance, quand quelqu'un est un patriote, quand quelqu'un est dans le modèle de pureté de Thomas Sankara, de pureté de Marien Ngouabi, de pureté de Amical Cabral, de pureté de Kwame Nkrumah, de pureté de Simon Kimbangu, de pureté de Patrice Lumumba, les gens qui incarnent l'identité africaine, le symbole africain, l'unité africaine, eh bien, ils sont obligés d'être canardés par les Occidentaux. C'est dommage que nous, les Africains, au lieu de défendre un des nôtres qui fait notre fierté africaine, au lieu de défendre un des nôtres qui est un modèle de la jeunesse africaine, au lieu de défendre un des nôtres qui est un panafricaniste pur, ben non, nous passons sur RFI, nous passons sur BBC, nous passons sur les radios occidentales qui, au contraire, nous canardent, nous tuent avec un formatage connu pour rabaisser un des nôtres. C'est malheureux et c'est dommage.
Oui, c'est vrai, mais on en parlera. Monsieur Zerbo, autre question, c'est que pendant que tous ces gens se mettent à, a discrédité le président Ibeka, lui, enfin Ibrahim Traoré, il trace son chemin, hein. Il ne tourne pas à gauche, il ne va pas à droite. L'AES aussi a un programme. Ils ont mis en place un programme, les trois. Ils ont structuré, ils ont créé une banque. Mais au-delà de ça, on parle d'abord du Burkina Faso. Ce que je voulais savoir, c'est que moi, j'ai vu de manière assez effective sous vos posts sur Facebook, vous avez mis la production céréale. Vous avez atteint l'autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est vrai? Comment c'est possible? Alors qu'il y a d'autres pays qui l'ont clamé, on ne va pas dire lesquels en Afrique, il y a plein de pays qui ont dit ça. Vous le réalisez?
Alors, je m'arrive souvent, je me suis donné la mission de publier cette information chaque matin, chaque soir, pendant 30 jours, pour que mes ennemis voient que c'est possible et ça a été fait. Alors, allons à la genèse de l'histoire. À la genèse de l'histoire, c'était la première sortie du capitaine Ibrahim Traoré à l'international. Il s'est rendu en Russie. C'était le sommet Russie-Afrique. Alors, le capitaine a pris la parole, il a été très incisif, il a demandé à tous ceux qui sont ici, parce que le président russe, Poutine, a offert du blé. Oui. Ça a choqué le capitaine Traoré.
Tout à fait.
Sincèrement, ça l'a choqué, il n'était pas content, mais par pur respect africain, tu ne peux pas venir chez quelqu'un, parcourir des milliers de kilomètres, quelqu'un qui t'envoie des avions, un avion affrété, son propre avion te chercher, te ramener, tu ne peux pas lui manquer de respect chez lui.
Tout à fait.
Donc, il s'est juste calmé, il a juste dit merci, mais il a lancé un défi à Poutine sous camouflé d'interpeller ses propres confrères. Il a dit, le prochain sommet Afrique-Russie, si nous revenons ici, c'est que nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire, nous ne reviendrons jamais ici pour prendre du blé. Et c'était en 2023, juillet 2023 précisément. Et quand il est rentré, il a engagé des réformes, ce qu'on appelle le programme présidentiel pour l'agriculture. Et ça a démarré en 2023, 2024, ça a vraiment pris, en 2024, pardon. Et 2024, ils ont pu vraiment augmenter les choses. Et en 2025, tout a été lancé. Et la production céréalière 2025 a été l'un des phénomènes incroyables en agriculture. Pour la première fois de son histoire, 60 ans d'existence, c'est la première fois que nous produisons plus d'un million de tonnes de riz, plus de 2 millions de tonnes de maïs, plus de 2 millions de tonnes de sorgho et 900 tonnes d'ananas, une spéculation qu'on vient de commencer, qu'on nous a dit impossible de produire. On a produit près de 15 000 tonnes de café. On a produit près de 900 000 tonnes de blé. Donc, c'est vous dire qu'avec ça, quand on regarde la proportion réelle de production, la couverture des besoins, c'est à 126,4%. C'est-à-dire que le Burkina a récolté assez de céréales qui lui permet de se nourrir l'année et l'année suivante. C'est-à-dire qu'il peut se nourrir pour attendre encore 2 ans. C'est-à-dire que même la production de l'année prochaine, même si on ne produit rien l'année prochaine, le Burkina peut se prendre en charge en point de vue, en besoin alimentaire. Donc, c'est ça qui est les critères universels reconnus par la FAO, l'USDA, le PAM, disent tous que si vous couvrez les 100% de votre besoin, vous êtes en autosuffisance alimentaire. Si vous avez une couverture de plus de 100%, vous êtes en sécurité alimentaire. Et le Burkina est à 126, ce qui veut dire qu'on a atteint, en termes de critères universels, l'autosuffisance alimentaire pour 2025, et nous avons instauré la sécurité alimentaire pour 2026. Donc ça, c'est inédit, et c'est pas comme si on en parle, c'est pas une projection, c'est une réalité. Et figurez-vous que, à base de cette autosuffisance alimentaire, l'AES vient de créer le central d'achat céréalier. C'est-à-dire que le Burkina veut faire en sorte que cette sécurité alimentaire soit partagée entre les trois. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de créer une banque de céréales qui va permettre à l'AES d'être en sécurité alimentaire permanente durant des années. Vous voyez l'idée? Donc, ça déjà, c'est des faits réels, c'est des faits concrets. C'est pas comme si on c'est pas comme si c'est pas palpable. C'est réel, c'est concret. N'importe qui vient aujourd'hui, on va lui montrer des tonnes Et parce que le Burkina a réussi à enclaver près de 297 000 hectares supplémentaires. 297 000 hectares supplémentaires ont été valorisés et ont permis à des régions qui étaient reconnues comme étant des régions sahéliennes non producteurs de céréales, qui ont produit des tonnes de céréales. Et on a une vidéo à Dori. Dori, c'est notre ville un peu sahélienne. Dori a produit sur près de 20, 50 hectares du riz. Donc, c'est pour vous dire que c'est une prouesse qui a été réalisée parce que le président a compris que la première souveraineté se bâtit sur la souveraineté alimentaire. À partir de ce moment-là, l'autre chose, c'est qu'on a interdit l'importation de tout ce qu'on peut produire au Burkina. En ce moment, depuis 2024, avant d'atteindre l'autorité en 2025, 2024, le président a créé les conditions. Il a interdit l'importation du riz. Il a interdit l'importation des céréales et il a demandé à ce que les importateurs investissent dans la production locale, sur place. Et beaucoup ont été obligés d'aller prendre des hectares, de valoriser des hectares et de pouvoir cultiver. Et c'est ça qui a donné ce qu'on a aujourd'hui. Ça a été produit par des Burkinabés, ça a été produit pour les Burkinabés et c'est disponible. Aujourd'hui, je vous dis quoi? Par exemple, en termes de besoins alimentaires.
Vous n'avez pas vendu des terres à des Africains?
Non, non, non. Bon, quand tu dis Africain, je ne comprends pas.
Vous avez, je veux dire que vous avez fait du local avec, comme on dit, les moyens de bord. Il n'y a pas eu, par exemple, vous n'avez pas dit, on va donner en jachère aux Chinois pendant 10 ans, pendant 20 ans. Oui.
Exact. En fait, le président proscrit toute participation extérieure dans certains domaines. Dans le domaine de l'alimentation, de la santé, le président est en train de proscrire toute participation extérieure. Et tout récemment, une anecdote, le président voulait créer et veut créer, ils ont créé une entreprise pour le chemin de fer, ça s'appelle Fassouraï. Et hier seulement, en conseil de ministres, le Burkina, le pays, a pris 95% des parts. Le président était, le pays avait pris 25% et avait concédé le reste à des privés. Il s'est rendu compte que si jamais ils les laissent la main, bah, ils vont leur imposer leur rythme. Donc le pays a repris 95% et n'a laissé que 5% à l'entreprise et voilà, et Burkinabé qui doit les accompagner. Donc tu vois, donc oui, on n'a pas laissé participer des internationaux. C'est purement burkinabé. Et en prélude, il y a eu l'achat des appareils, des machines, des tracteurs, des semenciers, tout type d'appareils pouvant permettre d'atteindre l'autosuffisance ont été tous acquis sur fonds propres. Je répète bien, ça n'a pas été acheté avec crédit, ça n'a pas été un prêt bancaire au FMI, ça a été acheté grâce à la cotisation des Burkinabés. Et cette année 2025, du 1er janvier au 31 décembre, les Burkinabés ont cotisé 222,242 milliards. Les Burkinabés, que des Burkinabés, excusez-moi. Et pour rire, si vous regardez le budget 2026 de la Côte d'Ivoire, il y a des postes ministériels qui ont moins de 200 milliards. C'est-à-dire que le Burkina, même la simple cotisation des Burkinabés, et figurez-vous que les 200 milliards n'ont rien à voir avec la mobilisation fiscale, hein. Ça n'a rien à voir. C'est une cotisation exceptionnelle qui a été instituée, le fonds de soutien patriotique. Et figurez-vous que ce fonds-là pouvait financer deux à trois postes ministériels de 2026 en Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Et moi, j'ai fait des postes que je démontrais.
Je vais vous compléter un peu.
Monsieur Ndian, il faudrait laisser peut-être Madame Opou et M. Gaïno aussi. Mais allez-y. Monsieur Miamalade, qui est agronome aussi, pour intervenir. Monsieur Gaïno et Madame Opou aussi. Monsieur Ndian, allez-y.
Une suite. Je les interdis pas.
Allez-y. Allez-y, Monsieur Gaïno, Ndian. Allez-y. Une minute.
Oui, je disais que ça, c'est un exemple, un modèle à suivre qui montre que ce n'est pas une utopie que l'Afrique, qu'un pays africain, ou que même tout le continent d'ailleurs, hein, nous puissions atteindre ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Ça montre que ce n'est pas une utopie, ça montre que c'est un modèle à suivre, d'une part. Et d'autre part, ça montre aussi que le projet de l'Afrique, que l'Afrique peut vivre sans l'aide extérieure. Nous pouvons manger à notre faim, vivre sans l'aide. Et toute l'Afrique, les 54 pays africains, la preuve,
le projet de la ZLECAF, notamment de la zone de libre-échange continental africain, à l'horizon 2030, que nous avons, que nous connaissons tous, fera donc du continent africain le plus grand marché du monde. Et donc, avec l'exemple de l'AES, avec l'exemple du Burkina Faso, eh bien, nous pouvons nous en inspirer, toute l'Afrique peut s'en inspirer pour dire que voilà, on peut vivre sans eux, on peut vivre sans aide extérieure, toute l'Afrique, pas seulement un pays, mais toute l'Afrique.
D'accord.
Voilà le complément que j'allais faire.
Mais vous pouvez aussi...
Pardon. J'aimerais un peu... Oui, j'aimerais faire une remarque tout de suite quand M. Gabriel parle ainsi. Le travail se fait avec ceux qui vous donnent aussi l'initiative, ceux qui vous financent, ceux qui ont des projets. Or, quand, avec si, comme on dit, on peut mettre Paris dans une bouteille, l'Afrique peut faire ceci, l'Afrique, mais rien ne se fait avec les mêmes que nous avions 50 ans au pouvoir, 40 ans au pouvoir. Ils sont tous désossés, ils n'ont plus rien à offrir aux gens. Alors, si on continue avec les mêmes, et puis vous voyez quelqu'un jeune qui essaie de faire quelque chose, ce sont ceux-là qui seront contrôlés, qui vont chercher à le vendre auprès de ceux que j'appelle les impérialistes. Vous voyez ? Donc, c'est bien beau de dire ça. Mais réfléchissez au moins. Réfléchissez à ce que vous faites. Les actes que vous posez vous-même. Est-ce que ça peut aller dans ce sens-là ? Je ne crois pas. Voilà ce que je voulais faire comme une remarque.
Merci. Madame Apou, Monsieur Ndion donne une ligne, il approuve, il est économiste, c'est ça, c'est très bien. Vous êtes ancienne élue ou ancienne maire. Monsieur Boignan Zerbo vient nous dire qu'en moins de 3 ans, le Burkina est autosuffisant du point de vue alimentaire. C'est un exploit, ou tout simplement, comme dit Monsieur Gaïno, c'est le travail qui paye. Et c'est aussi le patriotisme. Qui a fait que...
Dans 10 minutes.
Oui.
Dans 10 minutes, je vous demanderai à prendre congé, parce que ça fait une heure qu'on discute. Dans 10 minutes, je demanderai à prendre congé. Okay. Donc, si on peut continuer.
Oui, monsieur, là, ils ont pris le travail à bras le corps. Comment vous l'analysez ? Je ne parle pas de d'autres pays, mais comment vous l'analysez ça ? Ça vous surprend, madame Oupou ?
Ben, vouloir, c'est pouvoir, hein, comme on le dit. Moi, s'il y a quelque chose, par contre, qui me fait très mal, c'est quand on voit des jeunes comme ça, des jeunes comme le capitaine Ibrahim Traoré, qui sont en train de faire un travail remarquable pour la population, pour le peuple. Mais et entre nous, il y a encore des personnes qui veulent venir mettre ça à mal. Vraiment, j'aimerais bien comprendre. Alors, quand je vais parler des hommes, vous allez me dire, « Ah, la reine, elle parle des hommes. » Il y a quand même quelque chose de ridicule là-dedans. Pourquoi on nous utilise toujours nous-mêmes, comme on a parlé de notre ancêtre Lumumba tout à l'heure, hein? Pourquoi n'ont-ils pas de leçons? Et on se pose la question, pourquoi on est toujours en recul? Et puisque nous-mêmes, nous mettons à mal ceux qui veulent apporter quelque chose pour la population, hein? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que vous voulez, vous les hommes? Qu'est-ce que vous cherchez? Quand vous avez quelqu'un comme ça, et quand je regarde un peu ce coup d'État qui a manqué là, on voit tout ce monde tout autour, c'est quoi? J'aimerais bien comprendre. Je pense que, comme je le dis souvent, en Afrique, je ne sais pas, on ne connaît pas la politique, on fait des jeux politiques. Et quand vous faites des jeux politiques, vous agissez comme des enfants. Pour vous, c'est un jeu. Pour eux, ils s'imaginent que c'est un jeu. Quelqu'un qui prend de son énergie, de son temps, qui se sacrifie, et on le voit. Et quand Monsieur Zerbo vient de citer tout ce qui se fait, mais c'est une fierté. Mais qu'est-ce que vous voulez encore éliminer une personne comme ça? Et alors, bon, c'est juste ça, au fait, qui me fait très mal. Après, pour le reste, comme je l'ai dit tantôt, vouloir, c'est pouvoir. Hein? Quand on veut, on peut. Tout simplement.
Merci. Monsieur Zerbo va partir bientôt. Monsieur Zerbo, avant que vous ne partiez, j'aimerais que vous fassiez que vous nous disiez ce que
Monsieur
vous...
Caius.
Oui.
Monsieur Caius, excusez-moi, monsieur, je dois poser